Salut, je suis Enzo Colucci et tu écoutes la cinquième et dernière saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Depuis janvier 2020, un mardi sur deux, je pars à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles viennent témoigner d'un tournant de leur vie. J'essaie de traiter tous les sujets possibles. Peine de cœur, burn-out, échec sportif, maladie, échec scolaire, surendettement. Pour vraiment montrer que l'échec, c'est pas juste professionnel. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec les guerrières et les guerriers que j'ai reçus, je peux t'affirmer que l'échec, c'est jamais une fin en soi. L'adversité est une source de motivation incomparable si on a les armes pour l'affronter. Alors ce que je te propose, c'est de trouver ces armes qui nous manquent à travers le partage d'expériences de personnes qui ont vu leur vie prendre un tournant inattendu, mais qui ont su en tirer le meilleur. J'espère que ça va te motiver. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'accueille Francky. Salut Francky.
Salut Enzo, ravi d'être avec toi ce matin.
Bah pareil, trop content. Putain, ça fait un moment qu'on veut se l'enregistrer,
ouais,
ce podcast.
Ça doit faire 4, 5, 6 mois, je sais pas.
Le mais bordel.
Voilà. Comme quoi,
on y est.
On devait y arriver.
On y est, bordel. Trop bien. Trop content. Bah écoute Francky, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas?
Yes, avec plaisir. Alors moi c'est Francky, j'ai 43 ans. Je suis marié, je suis l'heureux papa de 4 filles et à côté de ça, je suis ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire que je suis responsable biz dev dans le marketing digital dans une boîte qui s'appelle Weborama depuis 11 ans et demi et je suis un passionné de méditation depuis 14 ans et donc du coup j'ai un side project, un side business et j'aide les entreprises et les écoles de commerce à découvrir les bienfaits de la méditation en quelques minutes par jour, voilà.
Clairement, je pense que ceux qui connaissent pas, vous allez vite le retrouver sur LinkedIn. C'est un peu la ref de la méditation accessible pour tous, Francky. Et c'est très stylé.
Merci.
Francky, écoute, avant qu'on commence et qu'on parle de cette petite histoire, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'échec? Comment tu vois l'échec, toi?
Oh yes. C'est pas évident cette question-là. Je savais que tu allais me la poser, j'ai essayé d'y réfléchir, je trouvais pas vraiment de réponse, donc ça va être vraiment comme ça, de façon spontanée. Pour moi, l'échec, c'est quand tu te fixes un objectif, que ce soit personnel ou professionnel, et que tu n'arrives pas à l'atteindre, et que c'est vraiment super painful, super douloureux pour toi. Pour moi, c'est ça un échec. Voilà.
Ouais, c'est la douleur qui...
C'est quelque chose qui fait vraiment mal.
Ouais, on est d'accord.
Moi, j'en ai vécu deux dans ma vie. Un qui a fait très très mal et un récent qui a fait aussi très très mal. Et pour moi, c'est ça l'échec.
Ouais, on est d'accord. C'est vraiment cette sensation où t'as l'impression que ta vie s'écroule, il n'y a rien qui va.
C'est ça, il n'y a plus rien qui va. Tu te dis, ah, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais fait que j'aurais pas dû faire? C'est vraiment un mélange de plein de choses.
Ouais, on se torture la tête. Et puis finalement, en fait, on se rend compte qu'on peut sortir la tête de l'eau.
C'est aussi ça l'échec, quoi. C'est ça, exactement. Tout à fait.
Ouais. Trop bien. Et bah écoute, Francky, on va attaquer dans le dur. Je vais contextualiser un petit peu comme d'hab pour les auditeurs. Et puis après, je vais te laisser un peu la parole pour qu'on reprenne un peu tout ça dans l'ordre, comment ça s'est passé, et puis qu'on creuse un peu tout ça.
Yes.
Aujourd'hui, le sujet du podcast, et je suis hyper content du coup pour cette dernière saison que tu viennes, c'est un sujet qu'on n'a encore jamais abordé. J'ai déjà eu... du coup, Gaël et Marc, qui étaient venus sur la première saison, deuxième saison, pardon, qui lui avait un cancer du cerveau quand il avait 11 ans. Et ouais. Là, du coup, on se place du côté de l'aidant. Donc, c'est ça que je trouve génial aujourd'hui. C'est que toi, du coup, ta femme, donc, elle a eu un cancer du sein.
Exactement, tout à fait. Elle a eu un cancer du sein. Donc, si on résume, en octobre 2020, on découvre que ma femme a un cancer du sein. Elle a un double cancer du sein dans le même sein. Et à un stade avancé, vu que c'était déjà un stade 3, alors qu'elle fait tous les contrôles, on est des psychopathes nous sur la partie santé, on laisse rien traîner, donc elle fait les contrôles tous les ans, et là bah, du coup tout s'écroule quoi, tu te dis waouh, comment est-ce qu'on va faire? Et la première réaction de ma femme, c'est de dire, on venait de l'apprendre, elle me dit mais si jamais je m'en sors pas, comment tu vas faire pour t'en sortir toi avec les 4 filles? Et là, je lui dis, mais attends, là, il y a un gros problème dans ce que tu viens de me dire. Parce que là, c'est pas de moi qu'on doit parler, c'est toi qui as un cancer. Et c'est toi qui dois survivre. Et on va y arriver. Donc, et là, c'est vraiment un tsunami. On a, en fait, on a eu un double tsunami, entre guillemets, parce que On découvre en octobre, donc elle a un cancer du sein, et on découvre en début décembre, parce qu'on fait plein de contrôles, PET scan et j'en passe, et on découvre non seulement qu'elle a un double cancer du sein, mais qu'en plus de ça, elle a la version super lourde, c'est-à-dire chimiothérapie, ablation, radiothérapie, anticorps. On savait qu'on allait passer 12 à 18 mois compliqués, et donc ça fait très mal. Et moi, la première réaction que j'ai eue, qui peut paraître totalement ouf, je pense que ceux qui vont nous écouter vont dire que je suis un peu débile, mais quand on a découvert, moi j'ai appris depuis toujours à trouver le positif dans chaque situation négative. Là, je pense qu'on peut difficilement trouver plus négatif qu'un cancer avec le traitement, avec la totale en termes de traitement. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation-là ? Quel message, Dieu, la vie, peu importe nos croyances, quel message on nous envoie pour que Candice, donc ma femme, ait cette maladie-là et qu'on soit obligé de traverser ce tsunami. Et en quelques heures, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on envoie ce message-là. C'est un peu violent, c'est un peu démesuré, mais je pense que c'est juste un message pour que ma femme prenne soin d'elle, prenne du temps pour elle, parce que Candice, c'est quelqu'un d'incroyable. Hein, on est ensemble depuis 25 ans. Tellement généreuse qu'elle pense pas à elle, quoi. Sa seule prio dans la vie, c'est le bonheur de ses quatre filles et le bonheur de son mari. Le reste n'a aucune importance. Bon, aussi, il y a quand même d'autres choses, hein. Mais on va dire que c'est la prio. Et en fait, elle a jamais de temps pour elle. Elle se pose jamais 5 minutes son cul dans un fauteuil pour lire un magazine et se prendre un thé. Et donc, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'était un message assez violent pour qu'elle s'écoute, elle, qu'elle prenne du temps pour elle. Donc, je le lui ai partagé au bout de quelques heures. Elle m'a dit, mais t'es totalement malade.
Oui, donc très frais en plus.
Genre très, très là, frais. Tout de suite, ouais, je peux être coach de méditation, mais je suis hyperactif, je suis un excité du cerveau. Elle me dit, quand même, c'est un peu démesuré. Je fais, écoute, je peux pas te dire si c'est la vérité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Ouais. Et je lui dis, on va s'en sortir, ça va être douloureux. Mais après ça, tu vas prendre soin de toi.
C'est ouf, du coup, ça fait 25 ans, tu dis, donc vous vous connaissez depuis que...
97, ouais. 12 août 97,
on s'est rencontrés à Saint-Tropez. Vous n'avez même pas 20 piges.
Alors, j'avais 19,5, elle en avait 20 ou 20,5, je ne sais plus exactement, mais voilà.
Énorme.
Ouais.
Et donc, la différence, du coup, là-dessus, quand tu dis, donc tu parles d'un double cancer du sein, ça veut dire qu'en fait, tu as deux tumeurs.
C'est ça, c'est exactement. Elle avait deux sortes de cancers différents au sein du sein, okay. Du même sein. Et ça avait même déjà commencé à toucher la chaîne ganglionnaire. Donc sous les aisselles, ouais. Donc du coup elle a dû se faire, ça a été très rapide après, hein. L'avantage c'est qu'on a été suivi à l'Institut Curie, okay. Les mecs ils te traitent d'un cancer comme ils te traitent d'un rhume ou d'une appendicite, donc il y a un côté assez positif. Quand on a appris que le protocole c'était chimio, ablation, radiothérapie, on sortait du rendez-vous, on a eu un rendez-vous avec une assistante qui nous a sorti toutes les dates,
okay,
de ces chimiothérapies. La première chimiothérapie, elle enchaînait 10 jours après, quoi.
Okay.
Donc tu rentres tout de suite. L'avantage, ça peut paraître un peu brutal, mais l'avantage, c'est que ça t'évite de tergiverser, trop penser, parce que tu rentres dans un process et tu as des étapes toutes les 3 semaines et que du coup, tu es dans un flow et tu te laisses, entre guillemets, bercer. C'est pas vraiment bercer, mais ouais. Tu te laisses embarquer dans un flow et tu sais que tu dois être au top à chacune de ces étapes-là.
Et c'est un flow qui dure combien de temps, du coup, ça ? Donc, tu dis que tu as des étapes toutes les 3 semaines ?
Ouais, alors, donc, elle a fait première chimio mi-décembre, dernière chimio 1er avril, voilà. En parallèle de ça, elle a commencé un traitement anticorps. Donc là, c'était une injection toutes les 3 semaines. Elle a fait sa dernière injection en février. Donc, elle a eu des anticorps pendant 12-13 mois. Elle a eu une première opération en mai, parce qu'en fait, à l'Institut Curie, tel que eux traitent, en tout cas les personnes avec qui on a décidé de faire ce suivi-là, considèrent qu'il faut faire de la chimiothérapie, l'ablation du sein, et après de la radiothérapie. Donc elle a eu 2 opérations en mai et juin pour donc retirer complètement le sein, tout vider, retirer tout ce qui était mauvais, faire une reconstruction partielle. Et en juillet-août, on a enchaîné avec 25 séances de radiothérapie pour cramer localement tout ce qui restait, alors qu'il ne restait plus grand-chose, vu qu'ils avaient déjà tout retiré. Et donc, entre guillemets, le process est terminé en février. Et en décembre 2021, donc après une année, l'oncologue nous a annoncé la bonne nouvelle comme quoi elle était en rémission. Donc du coup, on peut enfin tourner la page, même si la vie sera plus jamais comme avant. En tout cas, ça y est, quoi, elle est en rémission.
Ok. Et c'est une question moi qui me vient, mais comment tu récupères ta femme? Du coup, je pense tout de suite à cette opération du coup d'ablation. Enfin, c'est hyper dur. Je pense que c'est douloureux. J'ai des amis de mes parents aussi, pareil.
Ouais.
Une femme qui se fait du coup retirer son sein. Genre, je pense que c'est tu retires une part de toi énorme.
C'est une force. C'est une sorte de viol, même si j'aime pas le terme viol, mais c'est violent comme
ouais.
C'est violent physiquement et mentalement parce que c'est clairement tu touches à une des principales parties qui fait la féminité de la femme. Ma femme Candice est hyper coquette en plus, donc c'était très compliqué mentalement, c'était très compliqué physiquement également. Alors heureusement, on a été vraiment suivi par des gens exceptionnels comme le docteur Serror et le docteur Fitoussi sur la partie opération et reconstruction. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait une reconstruction partielle. Elle n'est pas ressortie en mode totalement plate. Ils ont mis une prothèse, il y a eu un début de reconstruction. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, comment on la récupère? Très fatigué, parce que quand tu commences la chimiothérapie, t'as un 12 tonnes qui t'écrase. T'as ça toutes les 3 semaines. Et puis après, t'as tous les effets, au-delà des effets fatigue, parce que t'as les vomissements, la fatigue ultime, mais t'as aussi le côté esthétique, c'est-à-dire que tu perds tous tes cheveux, tu perds tous tes poils, t'as plus rien, plus un cil, t'as vraiment plus rien. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, et ce que me dit Candice en tout cas, c'est que elle, ce qui l'a vachement aidé, c'est que de voir que dans mon regard, rien n'avait changé, et ça, ça l'a énormément aidé. J'ai même le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est renforcé, alors qu'on s'adore depuis 25 ans, sinon on ne serait plus ensemble. Il y a même quelque chose qui s'est renforcé de traverser cette épreuve ensemble.
Et toi, du coup, ça a changé quoi, justement, dans ton quotidien? Wow. T'as dû... C'est pour ça que la question est là, du coup. Mais comment est-ce que tu gères, justement, en tant que papa? Du coup, tu dis, t'as 4 enfants, elle est en chimio, elle rentre, elle est crevée, elle est épuisée psychologiquement, elle doit être, elle, au fond du seau, même si...
Ouais.
T'es dans le process, comme tu dis, donc bon, tu suis le truc, t'essaies de pas trop y penser, mais on est tous humains, donc t'y penses.
Ouais.
Toi, c'est quoi les actions? Qu'est-ce que tu fais pour
Alors, sortir là-dedans? Alors, c'est vrai que c'est très très compliqué, parce que en gros, l'organisation à la maison, elle est assez simple. Candice, elle doit s'occuper de la logistique, des filles, des devoirs, tout ça, et moi, je m'occupe de faire rentrer l'argent. C'est-à-dire que moi, je fais rentrer l'argent, elle le faire sortir, voilà, pour faire simple, sans vouloir faire cliché. Mais donc, du coup, ça a clairement changé des choses en termes d'organisation. J'avais pas l'habitude de déposer mes filles à l'école. Moi, j'aime pas dormir, je dors 4-5 heures par jour. Donc, généralement, à partir de 6h30, 7h du matin, je partais, j'étais en vadrouille, j'allais chez mes clients, je me posais dans des Starbucks, et je rentrais le soir. Donc là, en termes d'organisation, changement radical, parce qu'il faut déposer les filles. Elles vont pas toutes aux mêmes endroits. J'ai ma petite dernière de 4 ans. Alors, à l'époque, elle avait 2 ans et demi, 3 ans. Fallait l'emmener à la maternelle. Alors, c'est à 3 minutes de la maison en voiture, donc ça va. Et puis après, les grandes, parce que j'ai des jumelles de 13 ans et une grande de 15 ans, fallait les déposer au collège et pas forcément aux mêmes heures. Donc, j'étais un peu Uber non rémunéré de 7h30 du matin à 8h30 du matin, tous les matins. Donc ça, on va dire que c'est un détail, hein, c'est vraiment rien. En fait, j'avais pas le choix, quoi. C'est-à-dire que j'avais clairement... C'est certain que la pire des situations, c'est la situation de ma femme, hein, qui est entre guillemets malade et qui est en train de se faire guérir. Mais la position de l'aidant est quand même super compliquée, parce que j'avais pas le choix, quoi. J'avais pas le droit de pas assurer. Fallait que je puisse aussi aider mes filles. Donc le matin, c'était pas séance de psy, parce que je voulais pas leur prendre la tête, mais en bagnole, c'était à quoi vous pensez en ce moment? Est-ce que vous flippez pour maman? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vraiment,
c'est
dans
cool.
Une logique...
Tu parlais beaucoup du coup avec tes filles là-dessus quand
même.
Ouais,
je leur en parlais. Je les saoulais pas tous les matins, parce que je voulais pas que ce soit le thème de discussion tous les jours, sachant que quand elles rentraient à la maison, elles voyaient leur maman malade, fatiguée, donc c'était déjà assez présent. Donc je voulais pas, dès le matin, leur mettre dans un mindset, on échange sur la maladie et tout. Mais en tout cas, j'étais présent pour elles, pour échanger avec elles. Et puis dès que je déposais tout le monde, je chialais dans ma bagnole avant de partir à mes rendez-vous ou chez moi, pour arriver avec le smile, comme si tout allait bien. Et ce qui m'a énormément aidé, C'est une citation qui m'est venue comme ça, c'est « La vie envoie des épreuves aux personnes qui sont capables de les surmonter ». Je ne connaissais pas cette citation. En échangeant ça, je me rends compte qu'il y a des personnes qui me disent « J'anime un workshop dans une boîte » et il y a quelqu'un de confession musulmane qui vient me voir à la fin qui me dit « Francky, c'est écrit dans le Coran ce que tu viens de dire, sauf que c'est Dieu qui t'envoie des épreuves et s'il t'envoie des épreuves, c'est que tu arriveras à les surmonter ». Et au final, bah, ça a été entre guillemets mon mantra. Je me le répétais, je sais pas, 100, 500, 1000 fois par jour. Et je me suis dit, on nous envoie cette épreuve, on va y arriver.
Ça, du coup, tu le répétais, tu méditais beaucoup, j'imagine, à ce moment-là.
Ouais, je méditais de ouf. Déjà, je médite 3 fois par jour, ouais. Quoi qu'il arrive, depuis 7-8 ans. Mais c'est vrai que j'ai rallongé mes sessions de méditation. Moi, j'aime beaucoup faire des sessions de méditation très courtes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Là, je me suis mis à faire des sessions de méditation de 20, 30, voire 1 heure le matin, parce que je me réveillais encore plus tôt qu'avant. Parce que une de ma façon à moi de pas trop cogiter sur la maladie et tout ce qui pouvait arriver pendant ce tsunami, c'était de m'occuper l'esprit. Voilà. Et pour m'occuper l'esprit, bah, j'étais en mode création de contenu. J'ai écrit un nouveau livre. J'ai écrit de nouvelles formations en vidéo, en méditation. J'ai créé des nouvelles techniques. Et donc, du coup, j'ai augmenté mes sessions de méditation pour mon propre bien-être, pour ma propre santé mentale.
T'en faisais avec ta femme, du coup, à ce moment-là, des sessions de méditation. Est-ce que c'était quoi les petites actions que vous aviez, vous aussi, tous les deux, pour essayer de surmonter ça ?
Alors, c'est drôle que t'en parles parce que ma femme n'avait jamais médité de sa vie. Pour elle, méditation égale sieste. Et comme pour Candice, sieste égale repos égale bienfait, bah, c'était incompatible. C'est vrai que le week-end, le samedi ou le dimanche, quand je médite, ma session de méditation peut se transformer en micro-sieste de 20 ou 30 minutes. Donc, elle n'avait pas la bonne définition de la méditation. Et en fait, quand elle a appris sa maladie, dans les 24 premières heures, on a plein d'amis proches qui nous ont dit « Mais il faut que tu fasses des choses pour toi. Il faut que tu puisses trouver un peu de sérénité dans ce tsunami. » Et on a notamment des amis. Moi, j'ai des amis qui étaient suivis sur le plan psychologique, pardon, qui prenaient des médicaments, qui avaient des difficultés à dormir et que j'aide grâce à la méditation, qui lui ont dit « Mais Candice, médite. Alors, tu ne veux pas méditer avec ton mari, tu ne veux pas méditer avec Francky, ce n'est pas grave. Prends une application ou prends quelqu'un d'externe, mais médite. » Et puis, bah, en fait, au bout de 24 heures, elle a chialé pendant 24 heures non-stop, hein, on se retrouve le soir dans le lit avec la petite dernière qui est en train de prendre le biberon entre nous deux. Et elle me dit « Bon, bah, écoute, ouais, je veux bien méditer. » Je fais « Bah, écoute, super. » Et donc, je lui file mon téléphone et je lui dis « Tiens, tu peux tester cette application ou cette application. » Elle me dit « Non, non, je veux méditer avec toi. » Donc là, c'était un petit moment de gratitude et de satisfaction, sachant que moi, ça fait 14 ans que je médite. Et donc, du coup, je lui file mon téléphone et je lui donne une de mes techniques de méditation. Et là, je lui ai donné la technique pour qu'elle puisse s'endormir, parce qu'elle n'avait pas dormi depuis 24 heures. Et la technique dure 8 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je lui donne mon téléphone, les écouteurs. Au bout de 3 minutes, elle dort et elle ronfle.
Énorme.
Et là, ça a été une victoire. Je n'ai pas pu l'enregistrer parce qu'elle avait mon téléphone. Donc, c'est un peu con. Mais donc là, du coup, grosse victoire. Et en fait, à partir de là, ça a été une grosse découverte pour Candice. Elle méditait entre 5 et 7 fois par jour.
Putain.
Parce que du coup, en fait, elle n'avait tellement pas l'habitude de poser son cerveau que ça a été une découverte. Et puis comme c'était ma voix, je pense qu'il y avait un côté un peu rassurant. Et pendant quelques mois, elle méditait 5 à 7 fois par jour. Et ça lui a fait un bien fou.
Ensuite, des petites sessions, du coup, pour qu'on contextualise aussi, parce que les gens, souvent, ils disent, sessions, comme tu disais, genre,
très, très rapide.
20 minutes, quoi.
Non, non, c'était des sessions de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Ça pouvait être des sessions basées sur la respiration, des sessions sur le sommeil, des sessions sur la gratitude, vraiment tout un tas de sessions différentes. Et en parallèle de ça, on a décidé de mettre le paquet. Et donc, je lui ai dit, écoute, je pense que là... vu ce qu'on t'envoie, il faut que tu testes plein de trucs. Donc, teste la sophrologie, teste l'hypnose, teste la microkinésie, la réflexologie plantaire, pas tai chi. Moi, j'ai oublié, on a une amie qui nous fait des soins qui sont incroyables. Elle venait à la maison, elle nous faisait des soins et ça lui faisait un bien fou. Et donc, elle est devenue ouverte à plein de trucs alors qu'elle faisait strictement rien, quoi.
C'est ouf.
Voilà.
Et vous avez gardé, du coup, donc... Après tout ça, même si donc aujourd'hui elle est en réémission, donc ça, qu'est-ce que ça a changé du coup ? Quelles actions vous avez ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez fait à cause de ça et qui finalement a été hyper bénéfique pour vous et que vous avez gardé après ?
Bah, il y a des choses que moi je dépose mes filles, on se répartit le job alors qu'avant c'était elles qui faisaient les 100%. Les filles sont beaucoup plus autonomes sur les devoirs. Candice était très 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 exigeante. Là, elle a totalement lâché. Donc les filles sont, on a des profs pour les aider quand il y a besoin, mais on les aide que vraiment que quand elles ont besoin. Candice n'est pas là pour aller vérifier les devoirs, tout ça. Donc du coup, ça a permis aux filles de grandir peut-être un peu vite, un peu plus vite, peut-être un peu trop vite. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et puis, du coup, elle a gardé des choses, des séances d'acupuncture, des séances de réflexologie plantaire. Ça a été une énorme découverte pour elle. Quelque chose qui l'apaise, mais alors de dingue. La méditation, elle ne peut plus en faire.
Ah,
parce que le problème, c'est que méditation... égale annonce de la maladie.
Ok, maintenant elle l'associe à ça.
Donc c'est associé à la maladie, donc elle n'arrive clairement plus à en faire. Elle n'a plus réessayé depuis un petit moment. Okay. Donc elle va probablement essayer de voir si via l'hypnose ou via la PNL ou autre, on peut déprogrammer ça. Mais voilà, elle prend soin d'elle. Les très bonnes choses, c'est qu'elle se prend du temps pour elle. Elle peut aller faire un samedi, aller faire du shopping toute seule ou avec deux défis. Et puis moi, je m'occupe avec deux autres défis. Elle s'accorde du temps, elle n'est pas constamment dans le contrôle, dans le speed. Et ça, c'est une super nouvelle, quoi.
Ah, t'es ouf. Et toi, en tant qu'aidant ?
Et moi, en tant qu'aidant...
Ça a débloqué un truc, hein, il y a eu un clapet, quelque chose, sur justement l'ouverture. Tu parlais du coup de ton mantra hyper fort. Est-ce qu'il y a eu des répercussions encore derrière, encore plus positives pour toi dans ton quotidien ?
Alors, les répercussions, je les vois maintenant. C'est-à-dire que moi, pendant 14 mois, entre guillemets, j'existais sans exister. Et j'ai pris conscience que ce qui est génial, c'est que comme j'ai bossé comme un yinche, je dormais 4 heures par nuit, donc j'ai mon job full time qui me prend une dizaine d'heures par jour, mais tôt le matin, tard le soir, ça m'a permis de produire une quantité de contenu astronomique. Donc l'avantage, c'est que maintenant je vais pouvoir entre guillemets récolter les fruits de tout ce que j'ai bossé, entre guillemets c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement, c'est que 2022, j'ai envie de prendre soin de moi. Et donc pour prendre soin de moi, c'est ne pas de bon matin, dès que j'ouvre les yeux, sauter sur mon ordi pour aller écrire un article ou essayer de développer une nouvelle technique. Je me prends une bonne demi-heure tous les matins. Quoi qu'il arrive, tous les matins, j'ouvre les yeux, je les referme, je médite. Ça, c'est comme ça depuis 7-8 ans. Ça, c'est mandatory pour moi. Et après, je fais un peu de tai chi, un peu de qigong, un peu de lecture, un peu de tout avant de sauter directement sur les écrans. Et là, 2022 et les années à venir, je veux prendre un peu soin de moi et essayer de trouver un moyen d'aider les entreprises, d'aider les écoles de commerce, d'aider les personnes qui veulent se mettre à la méditation au travers de plein de programmes que j'ai créés qui sont très accessibles à partir d'une dizaine d'euros à plusieurs centaines d'euros sans que ce soit dépendant de mon temps à moi.
Mmh.
Voilà.
Très cool. Et... j'ai perdu le fil de ma question. non, c'était hyper cool ce que tu disais. Justement, ça me faisait penser à ça. Tu l'as un peu exposé, mais ouais, t'as une routine, toi, le matin, justement.
Ah ouais. Routine, j'ouvre les yeux, je les referme, soit je reste allongé dans mon lit, soit je vais dans le canapé, et je commence par une session de méditation. Je sais pas à l'avance combien de temps je vais méditer. Est-ce que je vais méditer 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes ? C'est moi, mon corps, je me laisse bercer. Soit je le fais avec une de mes propres techniques, soit je les fais en silence, soit je mets une petite musique de fond avec un gong au début et un gong à la fin. Mmh. Et ça, c'est vraiment ma première session de méditation qui est ma session favorite parce que ça permet vraiment de démarrer ma journée en étant reconnaissant. C'est une technique de méditation que j'appelle la méditation gratitude. C'est de penser à toutes les choses et toutes les personnes pour lesquelles je suis reconnaissant. Et donc, je suis là, je suis allongé, les yeux fermés. Je me dis, bon, OK, je suis reconnaissant d'avoir une femme, 4 filles. Tout va bien, j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai un job qui me plaît, j'ai un side project. Je peux manger à ma faim, je peux partir en vacances. Et je me dis ça, en fait, dans ma tête. Et j'essaye vraiment de me focusser sur tout le positif que j'ai dans ma vie pour démarrer ma journée avec des good vibes.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, j'adore ce que tu dis parce que ça casse vraiment l'image, encore une fois, de la méditation qu'ont les gens. Même, tu vois, ma copine avec qui on en parle, et c'est la plupart de mes potes, ils sont là... Non, mais mec, je comprends pas comment tu fais pour méditer. Moi, c'est impossible de me mettre sur pause. Je peux pas, je suis trop hyperactif. Frère, je suis hyperactif depuis que j'ai 2 ans. Parle à ma daronne, tu vas voir si je suis pas hyperactif. Et pourtant, je médite. Et toi, là, ta technique, elle est très forte parce que souvent, en méditation, quand on fait de la pleine conscience ou ce qu'on donne aux gens, c'est de dire, il faut faire le vide. Les pensées, c'est comme des nuages. Donc bon, s'ils apparaissent, tu les laisses passer. Mais limite, dans la tête des gens, c'est, j'ai pas le droit de penser. Alors que toi, là, c'est tout l'inverse. Tu dis, si, si, pense. Et pense qu'à du positif. Et ça, exactement. C'est très très fort. Je pense que ceux qui écoutent, qui ne se sont jamais mis à la méditation ou qui en ont fait peut-être un peu, je pense que cette technique, comme tu dis, en plus 3, 4, 5 minutes pour commencer, exactement. C'est hyper fort.
Ouais.
Hyper fort.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés en méditation. Les gens s'imaginent que pour méditer, il faut être une femme, il faut être vegan, il faut faire du yoga, il faut se mettre en fleur de lotus, il faut rester immobile pendant 20, 40 minutes, 1 heure. Archi pas, en fait. On peut méditer de plein de façons différentes. Moi, sur les 9 dernières années, j'ai suivi 8 formations différentes de méditation. J'ai été formé à plus de 200 techniques. J'ai fait une formation de 200 heures sur 7 mois avec un New-Yorkais pour découvrir plein de techniques différentes. Et en fait, on peut méditer, mais les gens s'imaginent tout de suite qu'il faut se poser, effectivement, comme tu le disais, faire le vide. Mais en fait, surtout pas. Il ne faut surtout pas faire le vide en méditation. On ne peut pas faire le vide. L'idée, c'est de continuer à avoir des pensées, de continuer à avoir des émotions et qu'elles nous affectent le moins possible, sans que ça nous perturbe. Mais on peut également, ce qu'on oublie souvent, c'est la mindfulness, la pleine conscience. D'ailleurs, pleine conscience a été mal traduit par Christophe André de mindfulness. C'est pas de la pleine conscience, c'est de la pleine présence ou de la pleine attention. Ça veut dire quoi ? Là, on est ensemble, je suis pleinement avec toi. Je suis pas en train de penser à mon call de 10h30. Je suis pas en train de penser à ce que j'ai fait hier, à ce que je vais faire demain. Je suis avec toi. Il y a un petit soleil levant là qui est très agréable. Je ressens cette chaleur sur nos visages. On est face à face et je suis pleinement avec toi. En méditation zen, il y a un concept qui s'appelle le concept du rien que. Ça veut dire quoi ? Je ne fais rien que ce que je suis en train de faire. C'est très compliqué de nos jours, d'autant plus dans nos métiers respectifs. On est tous les deux sales dans notre job. On est constamment en train, on peut suivre un webinar et en même temps envoyer à WhatsApp à quelqu'un et lire un mail. On a de plus en plus l'habitude de faire du multitasking et de faire plein de choses en même temps. Sauf que c'est prouvé par la neuroscience que c'est fatigant pour le corps, c'est fatigant pour le cerveau de faire plusieurs choses. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'apprendre par micro-moment, 10 secondes, 30 secondes, une minute, d'être pleinement dans ce qu'on fait. Là, je suis pleinement dans ce podcast. Ce matin, quand je me suis brossé les dents, je me suis dit, Francky, tu te brosses les dents. Tu sens la sensation mentholée de ta brosse à dents, la sensation des poils de ta brosse sur les gencives. Et t'es pas sur ton portable en train de regarder un TikTok ou en train de faire autre chose. Et en fait, ce que les gens souvent ne savent pas, c'est qu'en méditation, on a des centaines et des centaines d'occasions dans notre journée pour trouver des micro-moments. Ça peut être aller faire pipi, ça peut être se brosser les dents, ça peut être se doucher, préparer son thé, préparer son café. Et on peut trouver des micro-moments où on va essayer d'être pleinement dans ce moment-là, sans faire un milliard de choses en même temps. Mais ça, je pourrais t'en parler 2 heures, donc passer une autre question.
Non, mais écoute, c'est fort ce que tu dis, et je pense que c'est hyper actionnable pour ceux qui écoutent. Et moi, j'ai une petite dernière question pour clore cette interview avant qu'on passe à la suite. C'est pour les gens, du coup, qui sont un peu dans la même situation que toi, tu as vécu avec ta femme, inversement ou pas, en tant qu'aidant aussi, et quand il t'arrive une chose aussi forte que celle-là, c'est quoi les 2-3 conseils que tu donnerais justement aux familles, en tout cas aux aidants, pour dire comment est-ce qu'on peut se relever de ça et qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, tu vois?
Ouais, alors les conseils que je donnerais aux aidants, c'est d'essayer de ne pas s'oublier. Je sais que c'est facile à dire et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en application. Moi, je sais que on voit des gens autour de nous où les couples sont totalement partis en sucette, séparation, parce que trop douloureux pour les deux personnes de vivre cette épreuve ensemble. Je pense que les aidants, ils doivent effectivement se consacrer à la personne qui est malade, parce que la personne qui traverse la maladie, c'est quand même la première victime, et elle, son objectif, c'est de survivre. Donc pour moi, l'aidant, il doit être vraiment à 1000% pour accompagner la personne qui traverse la maladie, mais essayer quand même de ne pas s'oublier, même si moi je me suis un peu oublié, c'est de se trouver, sans forcément se trouver une demi-heure ou une heure par jour, mais se trouver 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par-ci par-là, s'accorder un peu de temps le week-end en fonction des possibilités, en fonction de la configuration, parce que c'est difficile de savoir en fonction des personnes, est-ce qu'on a des enfants, pas des enfants, voilà. Mais c'est essayer de se trouver des petits moments pour soi, ne pas considérer ça comme de l'égoïsme. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote quand j'avais fait un bootcamp chez SMCP, Sandro Mach, Claudie Perlot. J'avais accompagné toute la DSI pendant 6 semaines à découvrir les bienfaits de la méditation. Et je me souviens qu'une personne m'avait dit « Mais Francky, la méditation, c'est pas un peu égoïste ?» Je dis « Écoute, excellente question. » Je lui dis « Est-ce que tu as remarqué que quand tu prends l'avion et que les stewards, avant que l'avion décolle, te donnent les instructions de sécurité ?» Et qui t'explique que s'il y a une dépressurisation de l'appareil, tu as un masque à oxygène qui va tomber et qu'il faut que tu te mettes le masque à oxygène à toi pour pouvoir aider potentiellement des personnes en difficulté autour de toi. Je lui dis, je pense qu'avec cette anecdote-là, pour moi, tu comprendras que la méditation, ce n'est pas égoïste. Tu ne peux pas aider les autres si toi, tu ne vas pas bien. Je sais que c'est un peu cliché comme phrase, aime-toi toi-même pour aimer les autres, self-love is the best love, mais c'est tellement vrai que je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Donc c'est important dans ce genre de situation de réussir à se trouver du temps pour soi, ne pas considérer ça comme étant égoïste, c'est primordial, je ne vais pas dire que c'est vital, mais c'est quand même très 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 important. Ça c'est le premier conseil que je donnerais, après bon, c'est assez facile hein, de dire mettez-vous à la méditation, c'est génial. Moi c'est, voilà, j'ai découvert la méditation par hasard il y a 14 ans alors que je suis hyperactif. J'y suis pas arrivé tout de suite parce que je voyais beaucoup plus les contraintes et les obligations. Parce que la plupart des applications, la plupart des courants de méditation te demandent de méditer 10, 20, 40 minutes tous les jours à la même heure en utilisant la même technique. Et au final, je trouve qu'il y a beaucoup trop de contraintes. En tout cas, moi, ça ne m'a pas convenu au début. Ça m'a fait du bien, mais je trouvais ça trop contraignant. Et en fait, il m'a fallu 2 ans. Il a fallu que j'arrive dans une boîte en 2010 où le job, il était hyper prenant et à un rythme de dingue, où j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi. Et c'est à partir de 2010 que j'ai décidé de méditer tous les jours et d'intégrer la méditation dans mon quotidien, mais avec bienveillance. Et à ma façon. Pour moi, c'est pas toi qui dois t'adapter à la méditation, mais c'est la méditation qui doit s'adapter à toi, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut garder ce mindset du cobaye. Tester plein de choses. Moi, des techniques, j'en ai testé, mais je saurais même pas dire combien j'en ai testé. Et c'est aussi se les approprier. C'est pas parce que moi, dans une formation de méditation, je te dis que je te l'explique en 5 minutes, que tu peux pas la faire en 3 minutes ou en 12 minutes. C'est pas parce que moi je t'ai dit qu'il fallait que tu sois assis sur une chaise que tu peux pas la faire en étant allongé dans ton canapé ou assis en fleur de lotus par terre, tu vois. Et pour moi ça c'est primordial en méditation, c'est se dire la méditation c'est pour me faire du bien, donc je la fais comme je le sens moi. Et c'est comme ça que moi j'ai intégré la méditation en 2010 dans mon quotidien. Je me suis dit, Francky, tu dois méditer tous les jours, c'est mandatory. Que ce soit 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, en prenant ton thé, en étant allongé dans ton lit, en marchant dans ton jardin, peu importe, mais tu médites. Voilà.
Énorme. Trop cool. Bon, eh ben écoute, Francky, c'était ouf, hyper inspirant, très fort, des beaux messages véhiculés. Je pense que les gens vont kiffer. Bon, en tout cas, s'ils kiffent pas, moi j'ai kiffé. Donc déjà, ça, comme ça, c'est
moi
fait.
Moi aussi, j'ai kiffé.
Voilà, bah, là, c'est le principal. Si tous les deux, on a kiffé, il y en aura bien dans le lot derrière qui écoute, qui va kiffer aussi. On va passer à la suite, Francky.
Yes.
Les questions pour la mention. Tintintin.
Questions pour la mention.
Et la première, et non des moindres, quelles sont pour toi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie?
Oh.
Et pute, cette question.
Alors. Je vais prendre mes trois vertus à moi. Être bienveillant. Ça peut paraître encore un peu cheesy, un peu cliché, mais je pense que ça manque encore un peu beaucoup de nos jours, des gens qui sont vraiment bienveillants, ne pas faire les choses dans l'attente d'eux, en espérant que. Voilà, ça pour moi, c'est très très important. Pour moi, il faut être bosseur. Mais ça, encore une fois, c'est mon avis à moi. Il y a des gens qui sont talentueux et qui arrivent à faire des choses en une heure ou d'autres vont les faire en 48 heures. Je pense que quand on est bosseur, c'est quand même un atout parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus compétitif. C'est un milieu qui n'est pas forcément évident et donc je pense que pour moi, c'est une vertu d'être bosseur. Et la troisième, Ou si, être dans le partage, dans la connexion. Quoi. Moi, je passe ma vie à échanger avec des gens sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, avec des inconnus qui me demandent des conseils, qui me disent « Francky, j'ai vu ta vidéo sur TikTok, là, mais je n'ai pas compris, tu peux me la réexpliquer ?» Nous, on s'est connectés sur LinkedIn suite à un post, je ne sais plus, c'est quelqu'un d'Iconoclast, qui t'a tagué sur un de mes posts, je ne sais plus pour quelle raison. Et pour moi, la connexion, l'échange, le fait de partager, moi j'adore partager, j'ai un papa prof de maths, j'adore transmettre, que ce soit de la méditation, que ce soit des conseils de vie, peu importe, et ça, en tout cas, ça m'anime.
Ah, c'est ouf. Et je reviens du coup sur ta petite vertu du coup d'être bosseur. On en parlait en plus avant de commencer, mais il y a une phrase. Moi, j'ai fait beaucoup de basket et les mecs adorent dire NBA, hard work beat talent. Tu vois, genre en gros, le travail battra toujours le talent à la fin.
Complètement. Bah, d'ailleurs, il y a une citation de Michael Jordan où il dit j'ai loupé 9000 francs.
Ouais, des shoots, quoi. Enfin, ouais, après, il en a
j'ai
raté.
Tiré 9000 shoots, ouais. J'ai perdu 25 matchs, j'ai loupé je sais pas quoi, et c'est grâce à ça que je suis devenu l'un des meilleurs joueurs de basket au monde, quoi.
Ouais, c'est une machine. Lourd. Prochaine question, Francky, c'est quoi le livre ou le film, la série, le podcast, un truc que t'as kiffé, que t'aimerais partager en particulier?
Un seul,
ouais.
Ah, t'es dur.
Ah bah oui, on n'est pas là pour être ici. Hein.
Alors, livre... Non, t'es chiant, là. Pas cool. J'hésite entre deux. Je vais quand même dire les deux. Je vais pas respecter. Il y a les 4 accords Toltec,
ouais,
et il y a les pouvoirs du moment présent. J'ai vachement de mal à choisir entre ces deux-là.
Ouais.
Si je devais vraiment choisir un, je pense que je choisirais les 4 accords Toltec.
Ouais, il est fort,
qui résume en gros 4 accords qu'on essaye d'appliquer dans notre quotidien, qui est super puissant. Celui-là, je trouve qu'il est génial. Je l'ai lu 3 fois.
D'accord.
Il est facile à lire.
De ouf.
Hyper facile. Moins facile à mettre en application, mais il peut vraiment changer le quotidien.
Ouais, ouais, ce qui est dit dedans, quand on le lit comme ça, on dit bah ouais, c'est évident. Bah ouais, mon gars, c'est évident, mais vas-y, applique-le pour voir si c'est évident. Tu vas voir, parce que t'as raison, c'est trop fort.
C'est clair. Film.
Ouais, un film, tu veux te faire kiffer?
Film.
T'es pas obligé de dire un de chaque si tu veux.
Mais
si t'en as un qui t'a marqué, vas-y.
Ouais, ouais, il y en a un qui m'a énormément marqué. C'est, je me souviens plus du titre, il y a un titre anglais, un titre français, je sais plus, c'est Dr. Patch.
Ah oui, avec
Patch Adams,
Robin
avec Robin Williams, qui est un mec qui est dépressif, qui se fait interner volontairement en psychiatrie, qui décide de ressortir, et les mecs ne veulent pas le laisser ressortir parce qu'il a besoin d'être suivi, qui au final en ressort, et décide de devenir médecin pour essayer d'aider les gens à découvrir la médecine autrement. Et ça rejoint les vertus qu'on évoquait juste avant, parce que le mec, il est dans l'empathie, dans la bienveillance, dans l'échange. Et c'est un film qui est génial, rien que d'y penser, j'ai des frissons.
Ah,
c'est
là,
un sublime.
Ah ouais, j'adore.
Il y en a un autre que j'adore, c'est La Ligne Verte, registre totalement différent, mais Dr. Patch ou Patch Adam, c'est vraiment génial. Ouais. Et podcast de ma pote Caro Mignot, le tien, je l'adore, je le connais moins. J'en ai écouté quelques-uns, mais il y en a un que j'écoute vraiment très régulièrement, qui est Marketing Square de Caro Mignot.
Trop stylé. Caroline,
qui nous entend.
Qui doit venir sur le podcast. Je ne sais pas quand on va poster celui-là. Est-ce que ce sera avant, après? Est-ce qu'on l'aura déjà enregistré? Mais Caro, elle est prévue. Trop cool. Et du coup, dernière question. Mais peut-être que tu l'as déjà dit, mais on va finir avec ça. Est-ce que... Ah non, pardon. Putain, même moi, je ne connais pas mon truc. C'est quoi ton prochain objectif, Francky?
Pro, perso ou...
Ce qui te fait plaisir. Pro, perso. Un objectif que tu as en tête.
Ouais, je vais être égoïste, c'est prendre un peu plus soin de moi.
Ouais.
Et donc, pour prendre un petit peu plus soin de moi, j'ai vraiment... Je réorganise mes journées. Je suis à fond dans mon job. Mais je réorganise mes journées. Je prends plus de temps pour moi. Et je set up tout le contenu que j'ai pu créer.
Mm-hmm.
Il est set upé. Et je vais faire un launch très prochainement pour justement mettre à disposition tout ce que j'ai créé depuis 8 ans dans des petits packages en ligne pour que les gens puissent découvrir la méditation en quelques minutes par jour.
Trop stylé. On va partager fort ça de toute façon. Et la dernière, c'est ça que j'ai anticipé juste avant, le petit rituel de fin, Francky. Est-ce que tu peux résumer tout ce qu'on s'est dit depuis une grosse demi-heure en une phrase, une grosse punchline de fin?
Je vais la résumer en deux citations. Vu qu'on parle de l'échec, pour moi, la vie envoie des épreuves aux personnes qui sont capables de les surmonter. Donc, vous pouvez vivre des choses hyper painful, que ce soit sur le plan pro, perso, business, santé ou autre. A priori, on s'en sort. C'est un peu, c'est un peu, c'est quand on est dedans, on a l'impression qu'on va pas y arriver, mais généralement, on peut y arriver. Et pour terminer, je vais terminer par une citation que j'adore, qui est « Tout est possible ».
Boum. Fort. Trop stylé, Francky. Merci beaucoup d'être venu. Ça a fait super plaisir depuis le temps qu'on devait faire.
Avec grand plaisir. Merci à toi pour cette invitation. Du pur bonheur.
Bah, la même. À très vite, Francky.
À très vite.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Une fois n'est pas coutume, ça me fait super plaisir que tu aies écouté l'épisode. Merci beaucoup pour le soutien. Comme d'hab, si c'est pas déjà fait, tu peux me permettre de faire connaître le podcast avec deux actions super importantes. La première, c'est de mettre une note et un avis sur Apple Podcasts, comme tu sais. Et la deuxième, bah, c'est d'en parler autour de toi, bien évidemment. Tu peux également t'abonner à la page Instagram Phoenix Podcast et me suivre aussi sur LinkedIn. Je réponds toujours aux messages avec grand plaisir, même si j'avoue que je suis pas toujours hyper actif. Enfin, j'interviens dans les écoles et les entreprises pour réapprendre la notion d'échec. En gros, plus vulgairement, je mets des coups de pied au cul, mais avec sourire et bienveillance. Donc n'hésite pas à me joindre si tu veux que je te mette aussi un shoot de motivation au bureau. Je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de kiff.